Ram croyait avoir trouvé le moyen de nous insuffler une nouvelle dynamique politique. La crise de Wall Street avait révélé une panne du système de régulation des marchés financiers et, pendant la transition, j'avais demandé à notre équipe économique de préparer des réformes pour nous prémunir contre les crises futures. De son côté, Ram était convaincu qu'il fallait présenter le plus tôt possible un projet de réforme de Wall Street. « Ça nous replace du côté des gentils, » disait-il. « Et si les républicains essaient de le bloquer, on le leur met dans le cul. » Nous avions toutes les raisons de soupçonner Mitch McConnell de s'opposer à de nouvelles régulations financières. Il faut dire qu'il avait bâti sa carrière sur un rejet systématique de toute forme de régulation gouvernementale sur l'environnement, l'emploi, la sécurité au travail, le financement de la politique, la protection des consommateurs, susceptible d'empêcher les entreprises américaines de faire tout ce qui leur chantait. Mais McConnell était aussi conscient de traverser un moment politiquement risqué. Les électeurs associaient toujours le Parti républicain aux grosses entreprises et aux millionnaires en yacht, et n'avaient pas l'intention de laisser les positions anti-gouvernementales de son parti compromettre sa recherche d'une majorité sénatoriale. C'est pourquoi, sans pour autant dissimuler son intention de faire obstacle à tous mes projets, ce qui lui était plus facile depuis que la victoire de Scott Brown dans le Massachusetts avait privé les démocrates de leur 60e voix au Sénat, il a annoncé à Tim dans son bureau du Capitole qu'il ferait une exception pour la réforme de Wall Street. À son retour, Tim nous a résumé leur entretien. Il va voter contre tout ce qu'on propose et la majorité de son groupe aussi, mais il dit qu'on devrait réussir à trouver 5 ou 6 républicains disposés à bosser avec nous et qu'il ne fera rien pour les retenir. Autre chose, ai-je demandé ? Rien, à part que l'obstruction a l'air de bien leur convenir. Il paraissait plutôt content de lui. Cette concession de McConnell à l'opinion publique était lourde de sens, mais elle ne signifiait pas que l'adoption de la réforme par le Congrès serait une partie de plaisir. Les directions des banques n'exprimaient toujours pas le moindre remords pour les ravages qu'elles avaient causés. Pas plus que les banquiers ne nous témoignaient une quelconque gratitude pour leur avoir sorti la tête de l'eau. La presse financière m'accusait régulièrement d'être anti-business. Au contraire même, ils faisaient passer nos mesures de régulation de leur activité pour des pesanteurs inacceptables, voire carrément insultantes. Il demeurait en outre un des lobbies les plus puissants de Washington, qui avait de l'influence dans tous les États et de grandes poches pour arroser les deux parties. Au-delà de l'opposition frontale des banques, réguler le système financier moderne était une tâche extrêmement ardue. Fini l'époque où la plus grande partie de l'argent des États-Unis décrivait une boucle simple, dans laquelle les consommateurs faisaient des dépôts aux banques, qui utilisaient ces fonds pour prêter aux ménages et aux entreprises. Désormais, des milliers de milliards de dollars changeaient de continent en un clin d'œil. Les avoirs de certaines structures non conventionnelles, comme les fonds spéculatifs ou de capital investissement, rivalisaient avec ceux de nombreuses banques, tandis que la spéculation informatisée et les produits financiers exotiques, tels que les contrats dérivés, avaient le pouvoir de faire et défaire les marchés. Aux États-Unis, la surveillance de ce système complexe était répartie entre un éventail d'agences, Réserve fédérale, Trésor, FDIC, SEC, CFTC, OCC, qui pour la plupart agissaient de manière indépendante et gardaient jalousement leur territoire. Si nous voulions que notre réforme ait des effets tangibles, nous allions devoir les rassembler dans un cadre législatif commun. Il faudrait également synchroniser notre action avec celle des autres pays pour éviter que les entreprises ne fassent passer leurs transactions par des comptes offshore, leur permettant d'échapper aux contraintes réglementaires. Enfin, nous devions faire face à un parti démocrate profondément divisé sur la forme et le périmètre à donner à la loi. Pour les plus centristes, Tim et Larry, ainsi que la majorité des parlementaires, la récente crise avait mis en lumière les défauts sérieux mais rectifiables d'un système par ailleurs solide. Ils soutenaient que Wall Street devait son statut de première place financière mondiale à sa croissance et à sa capacité d'innovation, et que les cycles de haut et de bas, ainsi que les oscillations correspondantes entre exubérance irrationnelle et panique irrationnelle, étaient inhérents non seulement au capitalisme moderne, mais à la psyché humaine. Considérant qu'il n'était ni possible ni souhaitable d'éliminer tous les risques pour les investisseurs et les entreprises, ils n'avaient qu'une ambition restreinte pour cette réforme, placer des garde-fous autour du système pour circonscrire les prises de risques excessives, garantir la transparence de l'activité des principaux organismes et permettre au système d'échouer sans danger, selon la formule de Larry, c'est-à-dire faire en sorte que les individus et acteurs financiers ayant fait de mauvais paris n'entraînent pas tous les autres dans leur chute. Une grande partie de la gauche estimait que cette approche ciblée était loin d'être suffisante et se bornait à tirer les conséquences tardives d'un système qui desservait les intérêts de la population américaine. Ces parlementaires attribuaient les tendances économiques les plus alarmantes à l'hypertrophie d'une finance moralement douteuse et dénonçait autant la prédilection pour les profits à court terme, la réduction des coûts et les licenciements au détriment des investissements à long terme, que le comportement de certains fonds de capital investissement qui démantelaient des entreprises existantes pour les revendre en pièces détachées et engranger une plus-value injustifiée, ou encore l'augmentation constante des inégalités de revenus et la contribution de plus en plus faible des super-riches aux recettes fiscales. Afin de résorber ces effets déformants et mettre un terme aux frénésies spéculatives qui engendraient si souvent les crises financières, ils appelaient à une refonte radicale de Wall Street. Pour cela, ils préconisaient notamment de limiter la taille des banques américaines et de remettre en vigueur la loi Glass-Steagall, adoptée pendant la Grande Dépression et abrogée sous Clinton, qui servait à protéger les banques commerciales des risques pris par les banques d'affaires. Par bien des aspects, ces divisions internes me rappelaient les débats sur la santé, quand les partisans du régime universel avaient rejeté en les taxant de trahison tous les arrangements avec le système d'assurance privée existant. Et, comme pendant ces débats, je me sentais en résonance avec la gauche qui condamnait le statu quo. Au lieu d'affecter le capital à des usages productifs, Wall Street fonctionnait bel et bien comme un immense casino, avec des profits et des rémunérations disproportionnées reposant intégralement sur l'augmentation constante des effets de levier et de la spéculation. Son obsession pour les bilans trimestriels avait effectivement perverti les processus décisionnaires et encouragé une vision à court terme dans les entreprises. Dépourvu d'attache locale, indifférent aux effets de la mondialisation sur les travailleurs et les populations, les marchés financiers avaient sans aucun doute concouru à l'accélération des délocalisations et à la concentration de la richesse entre les mains d'une poignée de villes et de secteurs économiques, laissant d'immenses zones du pays sans argent, sans talent et sans espoir. Pour s'attaquer à tous ces problèmes, il fallait une politique audacieuse qui passerait par une réécriture du code fiscal, un renforcement du droit du travail et de nouvelles règles de gouvernance des entreprises. Trois choses qui figuraient sur ma « to-do list ». Mais pour ce qui était de réguler les marchés financiers afin de rendre le système plus stable, la gauche était à côté de la plaque. Rien ne prouvait qu'une limitation de la taille des banques américaines aurait pu prévenir la dernière crise ou dispenser du besoin d'intervention fédérale lorsque le système a commencé à capoter. Il était certes vrai que les actifs de JP Morgan ridiculisaient ceux de Bear Stearns ou de Lehman Brothers, mais c'était ces plus petites banques qui s'étaient considérablement endettées en pariant sur des subprimes titrisés et qui avait déclenché la panique. Par ailleurs, les grandes banques n'étaient pas responsables de la précédente crise financière américaine majeure dans les années 1980. Au contraire, le système avait été secoué par un déluge de prêts à haut risque, octroyés par des milliers de petits organismes d'épargne et de crédits mal capitalisés aux quatre coins du pays. Étant donné l'étendue des opérations des méga-banques telles que Citi ou Bank of America, il nous paraissait sensé que les régulateurs les surveillent de plus près. Mais leur couper les vivres n'aurait rien changé. Et puisque dans la plupart des pays européens et asiatiques, le secteur bancaire était encore plus concentré qu'aux États-Unis, limiter la taille de nos banques les aurait grandement handicapés sur les marchés mondiaux, sans pour autant éliminer le risque général. Pour des raisons similaires, l'expansion du secteur financier non bancaire rendait largement obsolète la distinction faite par Glass-Steagall entre banques d'investissement et banques commerciales. Celles qui avaient le plus misé sur les titres adossés aux subprimes, AIG, Lehman, Bear Stearns, Merrill Lynch, ainsi que Fannie Mae et Freddie Mac, n'étaient pas des banques commerciales à garantie fédérale. Et de toute façon, les investisseurs ne s'étaient pas laissés arrêter par l'absence de garantie et avaient injecté des sommes telles dans le système financier qu'il a été menacé dans son intégrité même dès que ces banques ont commencé à battre de l'aile. Inversement, les banques commerciales traditionnelles, telles que Washington Mutual et IndyMac, se sont mises dans le pétrin, non pas en se comportant comme les banques d'investissement souscrivant des titres à très haute valeur, mais en accordant des tonnes de prêts toxiques à des acheteurs qui n'avaient pas un dossier assez solide, afin d'augmenter leurs profits. Vu la facilité avec laquelle les capitaux circulaient désormais entre entités financières cherchant des rendements toujours plus élevés, nous allions devoir, pour stabiliser le système, nous concentrer sur la diminution des pratiques à risque plutôt que sur un type précis d'organisme. Il y avait enfin l'aspect politique. De même que nous n'avions pas obtenu assez de voix au Sénat pour faire adopter le régime universel d'assurance maladie, nous étions loin de pouvoir ressusciter Glass-Steagall ou limiter la taille des banques américaines. Et à la Chambre, les démocrates ne voulaient pas donner l'impression d'être trop gourmands, surtout si cela devait se traduire par un ralentissement des marchés financiers et une dégradation de l'économie. Mes électeurs en veulent la mort à Wall Street, monsieur le président, m'a dit un élu d'une circonscription de banlieue pavillonnaire. Mais ils n'ont pas signé pour un démantèlement complet. Jadis, après 3 années de douloureuse dépression, les électeurs avaient donné à Roosevelt un blanc-seing pour tout tenter, y compris de restructurer le capitalisme américain. Mais, en partie parce que nous avions empêché que la situation en arrive à ce point, notre mandat à nous était bien plus restreint. Je me disais que notre meilleure chance de l'étendre était de remporter quelques victoires tant que nous le pouvions. En juin 2009, après des mois de peaufinage, notre projet de loi sur la réforme de la finance était prêt à être présenté au Congrès. Et même s'il ne contenait pas toutes les dispositions voulues par la gauche, il n'en demeurait pas moins un geste audacieux pour adapter les règles du XXe siècle à l'économie du XXIe. Le texte était centré sur l'augmentation des fonds propres que tous les organismes financiers d'importance systémique, bancaires ou non, avaient l'obligation de détenir. Davantage de capital, c'était moins d'emprunts pour financer des paris risqués. Avec davantage de liquidités, ces organismes absorberaient mieux les pertes brutales provoquées par un effondrement du marché. Obliger les principaux acteurs de Wall Street à conserver un matelas de capital plus consistant pour pallier les pertes fortifierait l'ensemble du système. Et pour garantir qu'ils atteignent leurs objectifs, ils devraient régulièrement passer des tests de résistance identiques à ceux que nous leur avions imposés à l'apogée de la crise. Il fallait ensuite prévoir un mécanisme formel grâce auquel n'importe quelle société, peu importe sa taille, pourrait tomber en faillite sans faire sombrer le système tout entier. La FDIC, l'organisme fédéral de garantie des dépôts, avait déjà le pouvoir de soumettre toute banque garantie au niveau fédéral à une procédure de liquidation de ses actifs et de division du reste entre les requérants. Notre projet de loi conférait à la Réserve fédérale une autorité de résolution du même type sur tous les organismes d'importance systémique, bancaires ou non. Afin que la loi soit appliquée uniformément, nous avons proposé de délimiter les fonctions et responsabilités des diverses agences fédérales. Pour diminuer le temps de réaction en cas de troubles importants sur les marchés, nous leur avons donné l'autorité nécessaire pour entreprendre une grande partie des actions d'urgence, la mousse sur le tarmac, comme disait notre équipe économique, que la Fed et le Trésor avaient mise en œuvre au cours de la dernière crise. Et pour réparer les problèmes potentiels avant qu'ils ne dégénèrent, notre projet prévoyait de durcir les règlements régissant les marchés spécialisés qui constituent le gros de la tuyauterie financière. Nous visions particulièrement l'achat et la vente de produits dérivés, ces titres souvent incompréhensibles qui avaient contribué à l'augmentation des pertes dans tout le système après l'effondrement du marché des subprimes. Ces produits dérivés avaient bien sûr des usages valables. Toutes sortes d'entreprises s'en servaient pour se protéger en cas de mouvement important du cours des devises ou des matières premières. Mais entre les mains de traders irresponsables, ils étaient aussi un moyen de risquer gros en mettant tout le système en danger. Nous avions l'intention de rendre public la plupart de ces transactions, ce qui autoriserait une clarification des règles et une supervision plus précise. Pour l'essentiel, ces propositions étaient extrêmement techniques et portaient sur des aspects du système financier qui échappaient au grand public. Mais notre projet de loi contenait aussi un dernier élément qui concernait moins la finance que la vie quotidienne des citoyens. La crise de Wall Street ne se serait pas produite sans l'explosion des subprimes. Et même si un pourcentage non négligeable de ces prêts était allé à des emprunteurs avertis, qui, tout en cherchant un appartement à Miami ou une maison de vacances dans l'Arizona, comprenaient les risques de l'hypothèque à taux ajustable et des paiements libératoires, ils visaient en majorité des foyers populaires, souvent noirs et hispaniques, qui avaient cru pouvoir enfin accéder aux rêves américains, jusqu'au jour où une procédure de saisie avait confisqué leurs maisons et leurs économies. Cette absence de protection contre les pratiques déloyales ou trompeuses ne concernait pas que le domaine des hypothèques. Constamment dans le rouge alors qu'ils ne ménageaient pas leur peine, des millions d'Américains étaient régulièrement contraints d'accepter des taux d'intérêt exorbitants, des frais cachés ou tout simplement des contrats déséquilibrés de la part des émetteurs de cartes de crédit, prêteurs sur salaire, souvent discrètement financés ou détenus par les grandes banques, revendeurs de voitures, assureurs au rabais, vendeurs de meubles avec paiement différé et courtiers en viager. Souvent, ils se retrouvaient emportés par une spirale de dettes accumulées, de trades impayés, d'historiques de crédits désastreux et de saisies qui les laissaient dans une situation pire qu'au commencement. Dans tout le pays, les pratiques crapuleuses en vigueur dans la finance participaient au creusement des inégalités, au ralentissement de l'ascenseur social et à l'alimentation de bulles d'endettement qui rendaient l'économie plus vulnérable aux secousses. Ayant déjà réformé la législation sur les cartes de crédit, mon équipe et moi voyons dans les retombées de la crise une chance inouïe de progresser sur ce terrain. Or, il se trouve qu'Elizabeth Warren, professeure de droit à Harvard et spécialiste des faillites, venait justement d'avoir une idée susceptible de produire l'effet que nous recherchions. Une nouvelle agence de protection, qui viendrait renforcer la constellation de réglementations locales et fédérales inégalement appliquées, afin de prémunir les consommateurs contre les produits financiers douteux, de la même manière que la Consumer Product Safety Commission empêchait que soient commercialisés des produits de grande consommation dangereux ou de mauvaise qualité. J'admirais le travail de Warren depuis la publication en 2003 de son livre « The Two Income Trap », coécrit avec Amelia Tyagi, dans lequel elle décrivait avec justesse et ardeur les difficultés croissantes des ménages à faible revenu avec enfants. Contrairement à la plupart des universitaires, Warren savait parfaitement traduire les analyses financières en histoire compréhensible par tous. Depuis 2003, elle s'était affirmée comme une des critiques les plus incisives de la finance, ce qui avait donné à Harry Reid l'idée de la nommer présidente de la commission parlementaire qui chapeautait le TARP. Tim et Larry, qui avaient tous deux été convoqués à de multiples reprises devant sa commission, paraissaient moins éblouis que moi par Warren. S'ils étaient sensibles à son intelligence et approuvaient son idée d'une agence de protection des consommateurs, ils trouvaient qu'elle en faisait trop. « Elle est très forte pour nous descendre en flèche », m'a dit Tim lors d'une réunion, « même quand elle sait qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que ce qu'on fait déjà. » J'ai levé les yeux et fin la surprise. « Ça alors, un membre d'une commission de surveillance qui sert la soupe à son public? On a déjà vu ça, Ram ?»« Jamais, monsieur le président », a répondu Ram. « Je suis outré !» Même Tim a bien été obligé de se fendre d'un sourire.